Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sors le Popcorn, le podcast ciné-série de Mademoiselle. Je suis ravie de refaire un épisode avec vous. J'ai cependant une petite annonce concernant le podcast qui va changer un peu de format, puisque Sors le Popcorn sortira désormais de manière régulièrement irrégulière, qu'on va faire un peu des épisodes au gré de nos envies, selon les séries et les films qui nous inspirent au moment T, quoi. Cet épisode spécial est dédié aux Oscars et à nos pronostics, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que la team ciné-série a été décimée par la maladie. Je me retrouve seule, sans Philippine ni Kalindi. Je suis désarçonnée, mais du coup j'ai quand même trouvé quelqu'un d'autre qui va m'aider à animer ce podcast.
Et bonsoir à tous, je suis bien présent.
Depuis le début, Mathéo se tait. Voilà. Il attend que je présente le podcast. Mais voilà, il est là aussi. Mathéo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu?
Alors, bonjour, je m'appelle Mathéo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, j'accompagne Alix pour le podcast sur les Oscars. Sachez que je fais partie de la team vidéo, c'est pour ça qu'on m'a appelé, mais en vrai, je n'ai aucune culture.
Oui.
Voilà.
On s'est dit que ça se rapprocherait, la vidéo et le cinéma.
Ça
et
se rapproche
finalement...
parce qu'il y a des caméras dans les deux, mais en vrai, en vrai, non. Mais j'ai aucune culture, mais c'est pas grave parce que avant tout, c'est un feeling avec les noms des films, un feeling avec le nom des acteurs, le nom même des catégories. Par exemple, moi, le nom Oscar, je sais pas pourquoi on appelle les Oscars Oscar, mais je trouve
eh bien,
que c'est stylé.
Une très bonne question. Au départ,
tu sais pourquoi?
Eh ben, je sais vite fait. En fait, au départ, ça s'appelait les Academy Awards of Merit. La petite statuette, okay. En fait, ça s'appelait pas un Oscar. Et en fait, c'était un surnom qu'on lui donnait un peu dans le milieu. Et il y a eu plusieurs rumeurs qui ont fait que finalement, c'est soit Walt Disney, soit une autre actrice qui, en fait, a donné ce nom officiel à la cérémonie, qui l'a pris ensuite.
Eh ben, je sens que je vais apprendre des tonnes de choses
mais
aujourd'hui.
Mais c'est pour ça que Mathéo est là, parce que finalement, il va apprendre plein de choses.
Oui.
Mais avant ça, je vous rappelle juste que la 92e cérémonie des Oscars se tiendra le 9 février. C'est pour ça que ce podcast sort le 7. Si j'ai tout bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire si j'ai tout bon? Si tous mes pronostics sont bons.
Tu diriges les Oscars l'année prochaine.
C'est ça, j'envoie moi-même ma lettre de motivation aux Oscars pour les présenter l'année prochaine.
Et donc, ce serait marrant de vraiment faire une lettre de motivation et de l'envoyer à l'organisation.
Eh ben, si j'ai tout bon, tu sais quoi, je ferai ça.
Ok.
Parce que,
chouette.
Donc, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on va d'abord, je vais faire un petit quiz à Mathéo parce qu'il connaît rien sur les Oscars, donc c'est un peu pour l'humilier, voilà.
Super.
J'adore. Non, mais c'est un prétexte pour vous mettre un peu dans l'ambiance Oscar et tout ça, et vous apprendre plein de choses, plein de fun facts sur les Oscars. Et ensuite, Mathéo m'interviewera, puisque je suis la plus grande spécialiste du cinéma du monde.
De la terre entière, de l'univers. De l'univers. J'en entends parler depuis que je suis tout petit. On me dit Alix Martineau, alors là, c'est incroyable.
Putain, je lui ai dit de me lancer des fleurs au début du podcast et il le fait super bien.
Je suis payé.
Et du coup, je remettrai donc les Oscars dans 7 catégories. Celui du meilleur film en langue étrangère, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur. Et bien sûr, je finirai par meilleur film, le tout interviewé par Mathéo. Et je ferai donc à la fois mon pronostic et à la fois, voilà, je dériverai peut-être un peu sur celui qui aurait mon cœur si moi je dirigeais l'Académie des Oscars et que j'étais la seule votante, voilà qui aurait gagné. Bon,
okay,
est-ce que vous êtes prêts pour cette émission spéciale un peu expérimentale?
Moi je suis hyper prêt, j'ai jamais été aussi prêt.
Ça tombe bien. Ma première question, Mathéo, c'est combien de présentateurs y a-t-il durant la cérémonie 2020 des Oscars?
Alors attends, parce qu'il n'y a pas un présentateur qui fait tout le long?
Eh ben, justement, Mathéo, ça tombe bien que tu me poses la question. Putain, c'est ma passion,
c'est incroyable, c'est incroyable.
L'année dernière, Kevin Hart a été choisi pour présenter la 91e édition, mais il a dû renoncer à la présenter puisqu'il a été accusé d'homophobie avec d'anciens tweets qui avaient refait surface. Après plusieurs semaines dans l'incertitude, l'Académie avait finalement décidé que la cérémonie se ferait sans présentateur unique.
Ah ouais ?
Voilà, une première depuis 30 ans. Et figure-toi que cette année, c'est pareil, ils ont décidé de pas avoir un présentateur unique et donc il y a plusieurs présentateurs. Est-ce que tu sais, est-ce que tu pourrais imaginer combien il y en a ?
Bah, je vais dire 6.
Eh bien, il y en a 15.
Oh,
t'étais si proche.
Le double, c'est quoi ?
Le double.
Plus.
Et donc, c'est des personnalités très reconnues et connues de l'Académie des Oscars, puisqu'il y en a Mahershala Ali, qui avait gagné un Oscar pour Moonlight, Olivia Colman pour La Favorite, Regina King, Rami Malek, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, qu'on embrasse et qu'on adore, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Maritran et Kristen Wiig.
Mais attends, je peux poser une question ?
Oui, bien sûr, Mathéo, tu l'as pour ça.
C'est parti. Est-ce qu'ils ont décidé de refaire plusieurs maîtres de cérémonie parce qu'ils se sont dit « Oh, mais c'est une super idée, en fait !»
Oui, exactement, parce qu'ils ont trouvé que la cérémonie s'était super bien déroulée l'année dernière. Donc, ils ont décidé de renouveler l'expérience, quoi.
C'est à la fois un peu bizarre et à la fois un peu cool.
Mais c'était une c'était déjà arrivé il y a 30 ans. Mais ouais, ouais. C'était une première.
J'avais entendu un peu parler de cette histoire l'année dernière. Ok, trop bien.
Mais bah voilà.
C'est intéressant.
Pour la deuxième question,
dis-moi.
À ton avis, Mathéo, quel est le film le plus nommé cette année ? Haha.
Alors là.
Et son nombre de nominations, bien sûr.
Et son nombre de nominations ? Moi, je vais dire. Oh là là. Je vais dire 1917.
Proche. C'est proche. 1917 est deuxième ex aequo avec The Irishman et Once Upon a Time in Hollywood avec 10 nominations.
10 nominations ?
Mais le premier en a 11 et c'est Joker.
C'est vrai ?
Ouais, c'est Joker de Todd Phillips. Voilà.
Ok.
Voilà, on apprend des petits trucs
On apprend des trucs, c'est vrai.
T'as vu comme c'est fun, ces petits fun facts, quoi ?
Ok, ouais. C'est dingue. Moi j'aurais dit 1917 quand même parce qu'on a beaucoup entendu parler, je trouve. Mais bon, c'est vrai que
Mais
Joker
après...
aussi.
Après, je pense qu'on a beaucoup entendu parler de 1917 parce que le film est récent et qu'il est sorti en France en janvier. Et moi, c'est toujours mon problème, en fait, dans mes pronostics pour les Oscars. C'est pour ça que j'y arrive rarement. Donc, je ferai sûrement pas cette lettre de motivation puisque je reste quand même assez naze. Mais je vais quand même vous dire mon avis puisque bah, vous ne l'avez pas demandé, mais j'adore ça. Et en fait, je suis très influencée par l'ordre dans lequel sont sortis les films.
Ouais, ouais, ok. Genre donc, là, si t'as vu 1917 récemment, tu vas te dire c'est vraiment le meilleur film de l'année.
Ouais, c'est ça. Okay. Alors que je sais que cet été, j'ai adoré Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. J'ai aussi adoré Parasite. Et en fait, comme ils sont plus loin dans ma mémoire, j'ai du mal à être objective là-dessus.
Je vois ce que tu veux
dire. Donc il va falloir que je garde une certaine impartialité. Et pour ça, je vais te demander de m'aider.
Ouais. Ok. Bah, je vais t'aider vraiment avec, avec une expertise hors norme.
Ouais. Du coup, troisième et dernière question, alors c'est un petit fun fact comme ça. Qui est le seul Oscar à avoir gagné un Oscar ?
Oh, Oscar Wilde. C'est le premier qui m'est venu.
Mais oui, bien sûr.
je sais pas.
Eh bien, écoutez, moi je ne le savais pas non plus, puisque c'est Oscar Hammerstein.
Hammerstein. Eh ben, ça tombe bien, je sais carrément qui c'est. Tu pourrais me développer un petit peu au cas où.
Au cas où vous avez oublié, c'est lui qui a gagné l'Oscar pour sa chanson The Last Time I Saw Paris dans le film Lady Be Good en 1941.
Mais stylé quand même, tu t'appelles Oscar, tu as gagné un Oscar.
Et c'est, surtout, c'est le seul.
Ouais, ouais.
C'est le seul gars, il s'appelle Oscar, il gagne un Oscar. C'est fou. Je vais créer, je vais créer des Alix et je serai la seule Alix à gagner des Alix. Oh, tu pourrais me décerner un Alix à la fin de la.
Je vais te décerner un Alix d'or.
Merci beaucoup. Ah, j'ai trop hâte. Alix Edor de la meilleure critique et des meilleurs pronostics. Écoutez, bah, cette émission du coup n'aura que des spoilers puisque je vais pas me gêner pour spoiler tous les films dont je vais vous parler.
Ça c'est chouette parce que vraiment j'en ai vu aucun, je le rappelle.
Bon, je ferai peut-être des efforts, je vais pas spoiler pour spoiler.
Non, moi je pense que les... Parlons un peu des spoilers. Faisons un podcast sur les spoilers. Non, mais en vrai, les spoilers, c'est pas si grave. Si le film est bien, les spoilers
c'est
gâchent
ça.
Pas le film,
c'est
moi
ça.
Je trouve.
C'est ça, et surtout, je vais pas spoiler pour spoiler, mais c'est juste que je vais pas faire attention. Donc, à partir de maintenant, voilà, je vous le dis, Ça va spoiler dans les chaumières, comme on dit. Bon, écoute, je crois, Mathéo, que c'est à toi de m'interviewer.
Alors là, donc, on va partir sur les pronostics des Oscars.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Donc, il y a les 6 catégories.
Il y en a 7.
Il y a 7 catégories, pardon.
Il y en a 7 catégories et on part... Alors, bon, je tiens à m'excuser déjà. J'ai pas pris les catégories des meilleurs films d'animation ni des meilleurs documentaires. Voilà, je n'en ai vu que peu. Donc, finalement, je me suis dit que c'était plus intéressant pour vous si c'était plus condensé. Et cette émission ne peut pas durer 3h30 à mon grand désarroi.
Et peut-être donc, qu'elle va quand même durer 3h30, on ne sait pas.
Si Mathéo a beaucoup de questions.
J'ai beaucoup de questions, d'ores et déjà. Première question. Non. Alors, on attaque du coup avec l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.
Oui.
Les nommés sont... Alors, non, je vais commencer direct. Cette question me pèse. Est-ce qu'on dit nommé ou nominé ?
Alors, c'est une très bonne question. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'Alix.
Je m'assois et j'écoute.
L'histoire d'Alix qui était une petite stagiaire dans une boîte de distribution et qui était community manager. Et la petite Alix, un jour, a fait un... Il me semble que c'était un tweet. Et un post Instagram où j'ai mis « nominé pour les Oscars ».
Aïe, 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 aïe.
Je me suis fait rappeler à l'ordre. En fait, on ne dit pas du tout « nominé » et c'est une erreur que beaucoup de gens font puisqu'on dit des nominations, mais c'est bien des nommés.
Mais on ne sait pas pourquoi on dit « nominé ». On ne dit pas « nominé », pardon.
Bah ouais, on ne sait pas.
Ok, bon, bah écoute... Du coup,
enfin,
les nominés
je
sont. Je vais passer.
Les nommés,
les nominés. Non, les nommés sont pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Corpus Christi. J'ai pas les réalisateurs. Est-ce que c'est grave ?
Non, mais tu peux dire d'où ils viennent.
Alors, Corpus Christi qui nous vient tout droit de Pologne. Mm-hmm. Honeyland qui nous vient de Macédoine du Nord. Très intéressant. Ouais. Les Misérables, notre fierté française, évidemment. Douleur et gloire d'Espagne et Parasite de Corée du Sud. Alix.
Oui.
Quel est ton pronostic ?
Alors, écoutez, mon cher Mathéo, voilà, vous allez dire que j'ai le sang chauvin, quoi. Mais. Écoute, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que Les Misérables va remporter cette catégorie. Parce que.
Ok.
Bon.
Est-ce qu'il y a une raison en particulier ?
Déjà, j'ai été complètement bouleversée par ce film, dont on a fait un podcast, un sort le popcorn avec Kalindi, je vous mettrai les liens dans les notes de ce podcast. Et en fait, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée et qui, je trouve, a une superbe histoire puisqu'il a fait vraiment beaucoup d'entrées en France. C'est un très très bon film français. Donc voilà, je suis très pour Les Misérables et surtout, alors celui avec lequel j'hésite, bien sûr, c'est Parasite, puisque Parasite
ouais,
a remporté...
Pourquoi pas Parasite, du coup ?
Parasite a remporté la Palme d'Or en 2019.
Et ouais.
Mais Parasite, écoute, si je ne m'abuse, est nommé aussi dans l'Oscar du meilleur film. C'est la première fois qu'un film sud-coréen est nommé à la fois à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et l'Oscar du meilleur film. C'est une première pour la Corée du Sud.
Ouais.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Bah c'est bien. Et ça on en discutera après de l'Oscar du meilleur film, mais du coup, parce qu'il est nommé dans l'Oscar du meilleur film, tu penses qu'il peut pas gagner la langue étrangère ?
Je pense pas qu'il peut pas, je pense que c'est l'occasion de donner sa chance à un autre, et je pense que c'est l'occasion de donner sa chance aux Misérables. Donc vraiment, c'est super difficile ce choix, je vais quand même trancher et dire Les Misérables et être aventureuse comme ça.
Ok, c'est bien. Est-ce que je peux donner mon avis de quelqu'un qui n'a vu aucun film ?
Bien sûr, bien sûr.
Chouette, moi je vais mettre sur Honeyland... Parce que...
Je sais que t'as kiffé la Macédoine
du
Nord.
Mais c'est incroyable, moi je connais pas du tout le cinéma de la Macédoine du Nord. Est-ce qu'il y a vraiment une industrie du cinéma qui est développée là-bas ?
Je connais peu la Macédoine du Nord et la Macédoine en règle générale. D'ailleurs, j'en mange pas.
C'est vrai ça.
Mais voilà, non, je n'ai même pas vu le film, vois-tu.
Ah ok.
Voilà, c'est... J'avoue que dans le meilleur film en langue étrangère, j'ai vu simplement Les Misérables, Douleur et Gloire et Parasite. Je n'ai pas vu Corpus Christi de Pologne et Honeyland de Macédoine du Nord. Mais j'ai l'impression que Les Misérables a fait énormément de bruit. Douleur et Gloire a aussi fait une belle apparition au Festival de Cannes. Cependant, je pense c'est un très beau film d'Almodovar sur sa vie et je pense que ses nominations sont des hommages. Mais okay. Je ne pense pas que ça pourra
ouais,
transformer l'essai, comme dirait Philippe.
Magnifique citation.
Non, très sportif.
Très cinématographique.
Voilà.
Est-ce qu'on passe à la deuxième catégorie ?
Eh bien, écoute, allons-y.
Alors, enchaînons tout de suite avec l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Les nominés... Non. Les nommés sont Tom Hanks, you know, pour Un ami extraordinaire. Anthony Hopkins pour les deux papes, Al Pacino pour The Irishman, Joe Pesci, Pesci en italien, mm-hmm. Pesci, pour The Irishman aussi, et Brad Pitt pour Il était une fois à Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. Traduction.
Déjà, je tiens à souligner que votre anglais est impeccable.
Mon anglais est travaillé. Mon anglais a été très travaillé. Tom Hanks, you know. Voilà. J'ai zéro accent anglais. Mais c'est pas grave, la question n'est pas là. La question est, quel est ton pronostic, Alix Martino?
Le trio Al Pacino, Joe Pesci et Brad Pitt sont vraiment les trois favoris. Mais écoutez, j'ai un grand problème dans cette catégorie puisque j'ai vu The Irishman. Alors, je vais vous raconter encore une histoire. Je l'ai vu dans de bonnes conditions, donc on ne pourra pas me le reprocher, d'accord ? Je l'ai vu sur une grande télé. Okay. Je ne l'ai pas vu dans mon lit, voilà. J'étais assis, c'est un home cinéma d'un ami d'amis qui m'avait invité à le mater, on était trois.
Trop bien.
Voilà, c'était super. Bon, on a fait deux pauses pendant ce film.
Ah ouais, bah
donc
trois
on l'a
heures
regardé
en
trois fois. On débriefait un petit peu au fur et à mesure. Et puis figure-toi que depuis, je l'ai oublié ce film, c'est dire à quel point il m'a fait effet.
Aïe.
J'ai beaucoup aimé sur le moment en plus, je me suis fait la réflexion. J'ai quand même trouvé que Scorsese était un peu à bout de ce genre de film-là, parce qu'il en a fait beaucoup. Alors, il faut savoir que je suis une fan inconditionnée de Scorsese, mais vraiment. Donc j'ai adoré Les Affranchis, qui fait partie de mes meilleurs films. Le Loup de Wall Street aussi, je suis une grosse, grosse fan.
Ah, ça j'ai vu. Wow. J'ai vu Le Loup de Wall Street, j'ai adoré. Merci à tous, merci, voilà, c'est moi qui remporte l'Oscar.
Non, mais voilà, et en fait, j'ai trouvé que c'était comme une sorte de dernier film. Ça ressemble à une dernière... un hommage à toute sa carrière, et donc c'est là qu'il est dans un casting d'autocitation, parce qu'il reprend Joe Pesci, il reprend Al Pacino. C'est de l'autocitation pour moi, c'est un beau film, il s'éclate complètement, il fait 3 heures, Netflix lui donne tout son budget, franchement c'est un film à Oscar. Pour autant, j'en ai pas de souvenir prenant, surtout parce que j'ai trouvé que le rôle des femmes n'était pas du tout assez développé, et ce que j'aimais bien chez Scorsese avant, c'est que justement les femmes avait un rôle approfondi, même quand ça se passait au niveau de la mafia, qui sont des milieux très masculins. En fait, les femmes avaient des rôles creusés qui soutenaient vraiment l'intrigue et pas seulement les personnages masculins.
Et là,
pas du tout. Je me souviens même plus des noms, alors que tout le film est quand même centré autour du mariage de la fille. Donc, ce film m'a laissé un souvenir doux, mais un peu oubliable, on va dire.
Ouais.
Donc, je ne pourrais pas voter ni pour Al Pacino, ni pour Joe Pesci, mais je salue quand même leur performance, et surtout la technique avec laquelle les acteurs ont été rajeunis et dans ce film.
Ça, c'est incroyable. Ça.
Donc ça, c'est assez incroyable, parce que vraiment, j'avais peur de le voir à l'écran. Et finalement, pas du tout. Et j'ai trouvé ça...
C'est vraiment crédible,
c'est vraiment crédible. Et Robert De Niro, j'ai trouvé ça top. Et donc, je salue ça et je salue la performance des acteurs. Mais du coup, moi, je pencherai donc mon pronostic pour Brad Pitt de Once Upon a Time in Hollywood. Il remporte en ce moment tous les prix. Il a remporté les BAFTA SAG Awards. Voilà, il est on fire, Brad Pitt. Je sens Brad Pitt gagner le meilleur acteur dans un second rôle.
Ok, intéressant. Eh ben écoute, pour ma part, sera Tom Hanks.
Ah oui ?
Je l'aime bien.
Tom Hanks,
Tom Hanks, you know. Non, parce qu'en plus, le nom du film est mignon, je trouve, un ami extraordinaire. Donc bon, pourquoi pas.
C'est super d'avoir
une expertise de haute voltige. On passe à la catégorie Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Les nommés sont Kathy Bates dans Richard Jewell.
Joe.
Ouais,
Les joyaux de Richard.
Les joyaux de Richard.
Le joyau de Richard, je sais pas.
Laura Dern dans L'histoire de mariage. Mariage Story, comme j'aime à le dire. Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit. Florence Pug.
Ouais, je sais pas le dire.
Pew.
Je dirais Pew, mais.
Ok, dans Little Woman. Mm-hmm. Et Margot Robbie dans Bombshell.
Eh bien, écoutez, mon cher Mathéo, je vais donner...
Réfléchir.
Non, mais je vais donner, en fait, deux réponses différentes. Déjà,
Je veux des justifications.
Je vais donner mon avis personnel. Je serais d'avis que Laura Dern remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage Story, parce que donc elle joue dans Marriage Story de Noah Baumbach une avocate qui aide le personnage de Scarlett Johansson à divorcer.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a Scarlett Johansson aussi dans.
Ouais, c'est ça.
OK.
De son mari, donc qui est joué par Adam Driver. C'est un film que j'ai adoré et tous les acteurs sont vraiment excellents et Laura Dern vraiment excelle là-dedans aussi. Et j'ai trouvé son rôle très non manichéen. Et okay. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, et elle incarne à la perfection cette avocate, à la fois très féroce et en même temps qui écoute vraiment les besoins de sa cliente en premier, et des femmes en général. Et elle accouche toute la réflexion de Scarlett Johansson dans une scène magnifique où c'est un plan séquence, enfin c'est ma scène préférée du film, où Scarlett Johansson raconte vraiment de A à Z son histoire avec le personnage d'Adam Driver. Et pour moi, c'est une scène de théâtre, en fait, qu'on a peu au cinéma, monologues en plan séquence.
Ah, trop stylé, ça.
Et c'est trop stylé. Scarlett Johansson est seule, parce que le plan est serré sur elle, mais ça reste un monologue qui est adressé à quelqu'un, et pour ça, Laura Dern le fait super bien, enfin, elle le reçoit très bien. Et je l'ai trouvé
c'est
même dans le reste...
C'est typiquement un second rôle, quoi.
C'est typiquement un second rôle, mais elle le fait, en fait, très bien, parce que c'était dans le théâtre antique, on avait besoin de rôles comme ça, en fait, qui permettaient de contextualiser l'histoire, enfin qui était là pour qu'on leur raconte toute l'histoire qui s'était passée avant la pièce et pour lancer la pièce, et ben elle est là pour ça et franchement elle le fait super bien et je pense que c'est important de le souligner. Après, je pense que c'est Florence Pugh qui va gagner pour Little Women.
Ok.
Voilà, parce que
pour une raison en particulier. Ou...
en vrai, je pourrais dire les deux. Hein. Les deux sont vraiment d'incroyables actrices.
Mais c'est intéressant du coup parce que tu parles de à quoi sert un second rôle finalement. Parce que vu qu'il y a déjà des rôles principaux qui tiennent l'histoire,
ouais, c'est ça.
Les seconds rôles servent à alimenter et à contextualiser ce que tu disais.
C'est ça. Et en fait, mon problème de cette nomination de Florence Pugh dans Little Women en second rôle, c'est que encore une fois, donc Little Women, c'est l'adaptation du roman Les quatre filles du docteur March de Louisa May Alcott.
Ok.
Et en fait, Joe, donc le personnage principal qui est dit principal dans Little Women, c'est un peu l'alter ego de l'auteur du bouquin, donc Louisa May Alcott. Donc c'est pour ça en fait qu'on la met en premier rôle. Et pour moi, Florence, pas Florence du tout, mais Amy, le personnage joué par Florence Pugh, se plaint en fait d'être toujours reléguée au second plan, de passer toujours derrière Joe.
Attends, ça c'est dans l'histoire.
Oui, dans l'histoire. Okay. Oui, dans l'histoire.
Elle se plaint pas en vrai, genre ouais, j'en ai marre. fait chier, je suis toujours
chier,
en second rôle.
Non, pas du tout. Mais en fait, dans l'histoire, elle est toujours reléguée au second plan. Elle passe toujours après. Elle se marie avec l'homme qui voulait à la base épouser Joe, et Joe l'a éconduit. Et elle se marie avec cet homme-là. Donc en fait, c'est une tragédie pour elle d'être un second plan, d'être un second rôle. Et donc en ça, c'est horrible pour moi qu'elle soit nommée en second rôle, parce qu'elle a un rôle tout aussi important que Saoirse Ronan dans
c'est
dans
pas la même définition du second rôle, du coup.
C'est ça.
Et c'est pour ça que c'est compliqué comme catégorie, je trouve. Enfin, j'ai toujours trouvé que second rôle, en général, c'était un peu compliqué à définir.
Ben oui, surtout que n'importe qui peut être nommé. Enfin, en fait, on te dit t'as un premier rôle et après t'as que des seconds rôles.
Ouais.
Donc c'est super dur de... Pour moi, les quatre filles du Dr. March... Il y a deux rôles vraiment principaux et deux rôles un peu plus secondaires, puisqu'elles sont quatre. Les deux rôles un peu plus secondaires, c'est Beth, donc leur jeune sœur qui parle peu, mais c'est aussi Meg. Et c'est l'histoire de ces deux sœurs, donc pour moi, c'est super dur qu'elles soient nommées en second rôle. Voilà.
Ok, très bien, c'est très intéressant. Je continue sur mon expertise inintéressante.
Ouais.
Pour moi, je vais mettre Kathy Bat, parce que son nom de famille m'intéresse pas mal, Bat. Je trouve ça marrant, ça me fait penser à une batte de baseball.
Ok.
Voilà, et puis Cathy, c'est un prénom, somme toute, qui me plaît bien. En plus, elle crée avec un K, j'adore.
Ok, mais merci beaucoup, Mathéo.
Ça t'intéresse toujours ? Ouais, toujours, c'est cool, ça me fait plaisir. Moi, je suis là, tu n'hésites pas à me poser des questions. Ok, on enchaîne tout de suite avec l'Oscar du meilleur acteur.
Ouh là là, ça se corse.
Ouais, ça commence à devenir... là, on est sur les... J'ai pas le mot pour finir cette phrase. On est sur la suite. Bon... Les nommés sont Antonio Banderas.
Oh là là, quel accent.
Ok, merci. Pour Douleur et Gloire, Leonardo DiCaprio. Je suis mieux sur les...
Joe Pesci.
Je suis mieux sur les accents latins. Du coup, Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver pour Marriage Story. Joaquin Phoenix pour Joker et Jonathan Pryce pour les deux papes. Alix, quel est ton pronostic?
C'est tellement difficile pour moi. En fait, il faut que vous sachiez que parfois, le matin, je vais à la boulangerie.
Attends, tu nous racontes ta Yves.
Mais ouais, mais c'est pour vous expliquer. Le matin, je vais à la boulangerie, j'hésite entre un croissant et un pain au chocolat, puis je repars avec une torsade.
Donc, finalement,
je suis incapable de faire des choix.
La métaphore est belle. La métaphore est belle. Je repars avec une torsade, moi, je l'ai. Hein.
Donc voilà, c'est un peu peut-être qui va se passer aujourd'hui, puisque j'hésite entre Joaquin Phoenix pour Joker, qui a livré une performance inoubliable sur laquelle reposait environ tout le film Joker, puisque enfin il y a quelques efforts de réalisation, mais ça reste quand même un film de performance, un film à Oscar de meilleur acteur en fait.
Aïe.
Et donc voilà, et j'ai trouvé la transformation physique de Joaquin Phoenix, qui s'investit toujours tellement dans ses rôles. Enfin, c'est vraiment de l'acteur studio, là on est vraiment sur du pur acteur studio. Et à côté, on a Leonardo DiCaprio qui, comme je le disais, joue mon personnage préféré de Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood. Et pour le coup, alors lui, il n'est pas acteur studio, mais en fait, Leonardo DiCaprio participe énormément à l'élaboration de ses rôles, et notamment dans celui-ci, puisqu'en fait, toute la scène, qui est ma scène préférée dans le film, donc à un moment, il a un trou dans le texte, donc il rate la scène, et de honte, il va s'enfermer dans sa caravane, là, dans son trailer, comme on dit, je sais pas, dans sa loge, quoi.
Ouais, ouais.
Et en fait, il casse tout. Et il dit, mais putain, t'es un acteur de merde. Et en fait, à travers cette scène, j'ai vu tout le dégoût qu'un acteur peut avoir pour lui-même, toute la...
Ouais, il y a sûrement une partie de vérité là-dedans.
Ouais, c'est ça. Et tout ce que, en fait, parce que ton métier, c'est d'être regardé par les autres et de faire ce que les autres attendent de toi, donc d'un réalisateur. Et en fait, j'ai trouvé cette scène mais tellement touchante et tellement folle. Et elle est vraiment incroyable. C'est la meilleure scène pour moi de ce film. Et ça montre vraiment une faille à la fois de l'acteur, parce que je trouve qu'on retrouve en fait Leonardo DiCaprio là-dedans, et du personnage. Et en fait, cette scène n'était pas écrite à la base, si je ne m'abuse. Et c'est Leonardo DiCaprio qui a dit, non mais en fait, il faut qu'il pète les plombs. Et Tarantino lui a dit, bah ok, bah vas-y, mais fais ton truc, tu vois.
Fais ta vie.
Et en fait, la caméra est posée sur un angle comme ça, et elle ne bouge pas. Et voilà, il casse tout dans son trailer. Et c'est...
Ah ouais, juste, ils ont posé une caméra dans la loge.
Ouais, c'est
lui,
ça.
Lui, il rentre, il casse tout et ensuite il se bat.
Non,
enfin, il se bat pas. C'est la fin de la scène,
tout.
Quoi.
Mais, non, il casse pas tout. Mais en fait, il se flagelle. Il est là, putain, je suis vraiment un acteur de merde. Parce qu'en fait, c'est un anti-héros dans le sens où c'est un acteur qui voudrait être un grand acteur et qui est en fait un acteur de série B. Ah. Mais il adore son métier.
J'ai pas l'histoire du... Ok.
Et il adore son métier et il adore le cinéma. Et... pour moi, ça montre la passion qu'un acteur peut avoir pour son métier et pas seulement attiré par le strass et les paillettes ou l'argent. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment faire bien son métier. Et cette scène, pour moi, elle est incroyable. Donc voilà, j'hésite vraiment entre les deux. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais peut-être repartir avec une torsade puisque Adam Driver dans Marriage Story m'a aussi bouleversée. Ce serait super dur de choisir, mais je crois que mon pronostic, ça reste quand même sur Joaquin Phoenix pour Joker.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parce que c'est un rôle qui a marqué. J'ai aimé Joker, ouais. On en a fait un Sort le Popcorn, d'ailleurs, donc je vous mettrai aussi les liens dans les notes de ce podcast. Mais oui, c'est un bon film et j'en suis sortie complètement... J'étais chouque, quoi.
Ok. Mais, intéressant.
Mais je pense que c'est vraiment un film à Oscar du meilleur acteur. Donc, je vais aller dans ce sens-là et dire Joaquin Phoenix.
Ok. Je continue de donner mon avis inintéressant.
Ouais, bien sûr.
Moi, pour alimenter le même, je dirais Leonardo DiCaprio, parce que c'est vrai que ça a été une blague pendant très longtemps et que maintenant qu'il a eu un Oscar.
Oui, il l'a eu maintenant.
Bon, il faudrait qu'il les ait tous, comme ça serait encore plus drôle.
Non, ce serait si drôle, oui.
Ce serait vraiment marrant.
Il gagne à chaque fois maintenant.
Ouais, qu'il en rate pas une. Maintenant, il fait un film claqué et il a un Oscar. On lui dit, bah, écoute, t'as suffisamment travaillé.
Merci. Bah, tu vois, comme quoi, c'était un peu piquant, ta remarque. C'était très bien approprié.
Nickel. Ok, on passe à l'Oscar de la meilleure actrice dans un premier rôle. Logique, oui. Vous me direz. Les nommés sont Cynthia Erivo dans Harriet, Scarlett Johansson dans Marriage Story. Alors ouais, mais là, ce nom, j'y arriverai jamais. Je vais le dire.
Ok, vas-y.
Et tu le redis après.
Je le redirai après.
Saoirse Ronan de Les Filles du Docteur March.
Donc ça se dit Saoirse parce que c'est un prénom irlandais. C'est une actrice irlandaise.
Ok, donc si elle entend ce podcast, elle va
péter les plombs, ouais.
Et enfin, en dernier, Charlize Theron dans Scandale. Alix, ma question est toujours la même. Quel est ton pronostic ?
Mon pronostic ? Alors, celui-là a été assez évident, bizarrement. Ah. Je vais dire Scarlett Johansson pour Marriage Story. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, donc déjà, Scarlett Johansson n'a jamais été nommée aux Oscars.
Ah ouais ?
C'est quand même fou.
Attends, en actrice ?
Elle a jamais été nommée.
Tout court ?
Tout court.
Même en second rôle ? Et là, elle a les deux ?
Et là, elle a les deux d'un coup. Elle est double nommée donc, pour Jojo Rabbit et pour Marriage Story, mais c'est la première fois en fait qu'elle est nommée et double nommée d'autant plus, donc c'est quand même marrant.
C'est trop bien.
Ouais, et Saoirse Ronan, de son côté, à 25 ans, elle totalise 4 nominations et c'est la deuxième plus jeune actrice à réaliser ce score. Donc c'était un record en seconde place derrière Jennifer Lawrence. Voilà, c'était mes petites infos sur.
Non, mais c'est dingue quand même parce que Scarlett Johansson, qui est une pointure dans le cinéma hollywoodien, qu'elle ait jamais été nommée, c'est dingue.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sélection ? Bah, à l'image du reste des Oscars, beaucoup de blancs, peu de femmes. Bah là, du coup, c'est meilleure actrice, donc que des femmes, mais voilà, et Scarlett Johansson.
Trop bizarre. Leonardo DiCaprio, il va tout gagner, je vous dis. Il va tout gagner.
Leonardo DiCaprio. Pour moi, Scarlett Johansson, c'est vraiment la révélation de Marriage Story. Et elle est flamboyante dans le film. Et franchement, je suis pas vraiment sensible à son charme habituellement. Je sais que tout le monde est fou amoureux d'elle et moi j'ai toujours trouvé que c'était une bonne actrice, mais j'ai jamais ressenti de
je suis d'accord avec toi.
Et par contre je suis énormément amoureuse de Adam Driver, c'est-à-dire que je le trouve époustouflant dans chacun de ses rôles et
même dans Star Wars
je l'adore. Et en fait, elle a réussi quand même dans ce film à me faire oublier un tout petit peu Adam Driver, et ça pour ça. Rien que pour ça, je lui donne l'Oscar, tu vois.
Okay.
donc non, elle est, enfin, comme je vous ai dit, le monologue qu'elle fait, c'est vraiment pour moi du grand cinéma, et c'est un travail d'acteur incroyable. Et elle est très juste dans ce rôle et très 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 pointue. Après, voilà, on pourrait imaginer Saoirse Ronan aussi, mais elle a un rôle plus, comment dire, déjà vu au cinéma, j'ai l'impression. Les 4 filles du Docteur March a été déjà adapté plusieurs fois au cinéma. Donc voilà, c'est un rôle qu'on a plus l'habitude de voir, même si elle le fait très très bien. Après, il y a Charlize Theron aussi qui vraiment porte le film Scandale, qui est un film sur le Me Too, pré-Me Too, puisque c'était avant l'affaire Weinstein. C'est dans la chaîne de télévision ultra-conservatrice Fox. Et donc c'est l'histoire de ces whistleblowers.
Okay.
Donc voilà, c'est un film important, je pense. Mais
c'est un film qui a été tourné avant l'affaire Weinstein ?
Non, pas du tout. Après. Oui, bien sûr. Oui, il a été tourné après l'affaire Weinstein. Mais ça, les événements qui sont décrits prennent place avant l'affaire Weinstein.
Ah d'accord. Ah, c'est une histoire vraie ?
Oui, c'est une histoire vraie.
Ok.
Voilà. Donc voilà, je reste sur Scarlett Johansson. Écoutez.
Ok.
Voilà.
Eh ben, validons Scarlett Johansson. Et pour ma part, ce sera notre ami. Saoirse. Ah ok. Parce qu'au final, c'est Saoirse en irlandais.
Bon, je sais pas, frère, hein, mais je sais pas. Je sais juste que ça se dit Saoirse.
Eh ben, ce sera Saoirse Ronan pour son nom. Pareil. Hein. J'ai pas d'argument particulier.
Super, merci beaucoup.
On peut enchaîner direct avec l'Oscar du meilleur réalisateur.
Ah là là, ça se corse.
Il y a pas là, je fais une petite pause. Il y a un Oscar, il y a pas d'Oscar de la meilleure réalisatrice ?
C'est une excellente question, Mathéo.
Je te lance, tu peux enchaîner.
Alors, l'Oscar du meilleur réalisateur. Bon, déjà la traduction française fait que le réalisateur a un genre, enfin le mot réalisateur a un genre. En fait, en anglais, c'est best director. Donc en fait, ça pourrait être une femme comme un homme. Parce qu'on dit pas directrice ou dire que directoress. Non, on dit directeur pour une femme aussi. Et donc, ça genre direct quand on le traduit en français. Il y a eu des polémiques concernant cette catégorie, puisqu'on dirait que dans tout le cinéma américain, finalement, il n'existe pas de femme réalisatrice, puisque sur les 5 nommées, eh bien, il y a 5 hommes.
Mais est-ce qu'il y a déjà eu des réalisatrices nommées en meilleur film ? Meilleur réalisateur, pardon ?
Bien sûr, il y a déjà eu des réalisatrices nommées à l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc, il y a Greta Gerwig qui a déjà été nommée, par exemple, enfin, je parle d'elle, mais j'aurais pu parler de plein d'autres, mais qui a déjà été nommée pour son film Lady Bird. Il me semble que c'était en 2017 ou 2018.
Ok.
Voilà. Donc oui, bien sûr, ça arrive. C'est juste qu'aujourd'hui, bah voilà, on a décidé que.
Mais globalement, ça se fait rare, c'est ça ?
Bah oui, c'est très rare de voir une femme nommée dans cette catégorie, déjà parce qu'on laisse peu leur chance aux femmes en tant que réalisatrices. C'est rare les femmes réalisatrices, mais aussi parce que bah on les embauche pas.
Oui.
Parce qu'en fait, on. Voilà, le patriarcat, tu connais, quoi.
On est là.
Et non, mais c'est triste, en fait, c'est triste. Et ouais. C'est pour ça que j'ai écrit un article sur Mademoiselle que je vous encourage à aller lire, puisque je le mettrai dans les notes de ce podcast, sur les 5 femmes que je verrais bien être nommées aux Oscars et qui ont été oubliées. Donc, parmi elles, il y avait notamment Lulu Wang, que j'aurais bien vue en meilleure réalisatrice, puisqu'elle a réalisé un film qui s'appelle L'Adieu, qui a été complètement oublié des Oscars, que j'ai adoré et qui est franchement... Enfin, pour moi, c'était vraiment un film à Oscar. C'est l'histoire d'une jeune femme sino-américaine qui s'en va retrouver sa famille en Chine parce que sa grand-mère va mourir. Et tout le monde le sait, sauf sa grand-mère. Et donc, c'est toute cette histoire de ces retrouvailles d'une famille multiculturelle. Donc, il y en a qui viennent... Enfin, ils sont tous... La seule chose qui les rassemble, c'est leurs origines chinoises et cette grand-mère qui est au centre de l'attention. Mais en fait, il y en a qui vivent au Japon, il y en a qui vivent en Amérique. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un super film que je vous conseille à 200% d'aller voir. Il y aurait pu avoir aussi Greta Gerwig une seconde fois pour Les 4 filles du Dr. March. Malheureusement, on n'a que 5 hommes, mais que je vais te laisser nommer.
Eh bien, c'est parti. Donc, pour l'Oscar du meilleur réalisateur, les nommés sont Martin Scorsese pour The Irishman, Todd Phillips pour Joker, Sam Mendes pour 1917, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood, j'articule, Bong Joon-ho pour Parasite.
Voilà, eh bien...
Quel est ton pronostic ?
Écoute... C'est encore une fois difficile puisque j'ai vu tous ces films et j'ai aimé tous ces films. Bon, à part The Irishman que je vous ai dit, j'ai oublié. Mais oh là là, c'est si dur. En fait, j'ai envie de... Bon, j'ai envie d'arrêter le podcast, voilà.
Eh ben, écoutez, c'est terminé. Merci à tous. Non,
non, non. Alors, bon, déjà, je vais procéder par élimination. Je vais enlever The Irishman parce que pour moi c'est un bon film de Martin Scorsese, mais je pense qu'il a fait mieux et il a fait plus concis aussi, donc plus efficace.
Ok, donc Martin Scorsese.
Donc
ça
niveau
dégage.
Réalisation, c'est clair que c'est ouf, mais ça aurait pu économiser du temps. Niveau réalisation, Joker, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment pour moi un film de réalisateur, c'est plus un film d'acteur studio, enfin de rôle, de grand rôle.
Ouais.
Donc je vais l'enlever aussi. Il me reste 3 films de réalisateur puisque 1917, c'est un plan séquence de Sam Mendes. Enfin, un plan séquence, c'est un faux plan séquence, mais ça donne l'illusion d'un plan séquence sur l'aventure incroyable d'un jeune homme pendant la guerre en 1917, d'un jeune anglais qui doit transmettre un message de sa division à un autre. Et donc, il doit faire 14 km, mais il passe quand même par le No Man's Land. Donc, finalement, c'est pas si facile que ça. Et c'est un film magnifique qui m'a complètement prise. Vraiment les tripes. Alors certains diront que c'est vide, que c'est un jeu vidéo. Je ne suis pas d'accord, désolé.
Il y a eu des critiques comme ça ?
Bien sûr, mais tu sais, tout ce que les gens aiment, les critiques n'aiment pas. Pour moi, c'est un film de grand réalisateur. La prouesse technique est impeccable. C'est à la limite du parfait, en fait. Et je pense que c'est ça qui a gêné beaucoup de gens qui trouvaient que ça véhiculait pas d'émotion. je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'y ai trouvé une grande explication à notamment tout ce traumatisme de la guerre, parce que tu le vis avec eux, en fait, et tu comprends ce qu'ils ont vécu en rentrant chez eux aussi. Donc, voilà, moi, je pense qu'il a vraiment, vraiment beaucoup de chance de le remporter. Quentin Tarantino, bah voilà, moi, c'est un de mes films préférés de cette année aussi, Once Upon a Time in Hollywood. En fait, c'est Quentin Tarantino, mais on ne l'attend pas là. C'est en ça qu'il pourrait gagner, c'est que, justement, c'est un film touchant et très bien réalisé, mais qui est différent de ses autres films. Et sinon, pour Bong Joon-ho, bah, en fait, Parasite, c'est hors catégorie. Pour moi, c'est un inclassable. Donc, écoute, je vais dire 1917, parce que pour moi, c'est une prouesse de réalisateur. Okay. En tant que réalisateur, c'est une prouesse technique. Et donc, j'attribuerai, en fait, cet Oscar du meilleur réalisateur à quelqu'un qui fait sa technique. Voilà.
Ok. Mais c'est intéressant, parce que, du coup, tu places le réalisateur plus en technicien. Quand...
Bah, dans ce cas-là,
parce que
oui.
Moi, j'ai envie de te dire, parce que j'ai un petit peu réalisé. À basse échelle.
Ouais.
Mais pour moi, le réalisateur a plus d'impact sur le comédien que sur le chef opérateur image.
Ah ouais.
Du coup, ça me paraît pas logique de nommer, enfin, de pronostiquer le meilleur réalisateur sur une prouesse technique plutôt que sur une prouesse de directeur d'acteur.
Quand je dis une prouesse technique, c'est aussi une prouesse de directeur d'acteur, puisque okay. C'est un plan séquence.
Ça en fait partie aussi.
Voilà, c'est ultra chorégraphié. Et en fait, c'est des acteurs qui sont donc George MacKay, notamment, qui tient le premier rôle, qui joue de façon ultra sobre et ultra efficace. Donc finalement, ça reste aussi de la très bonne, pour moi, direction d'acteur.
Ok. Dans ce cas-là, d'accord.
Mais en fait, un film de tout, tu vois. C'est un film esthétiquement... Enfin, en fait, tout fonctionne, en fait. C'est un film hyper huilé et qui est efficace. Et pour moi, c'est ça, en ça que je disais technique, quoi.
Ok. Ok.
C'est pas le film de Tarantino qui est plus qui parle plus avec le cœur, qui raconte plus quelque chose qui lui vient de lui. Et en ça, il pourrait gagner pour ça, tu vois. Parce que je pense que c'est un film, l'un de ses films les plus touchants, si ce n'est le film, son film le plus touchant. Donc voilà. Ouais, Sam Mendes. Allez, je dis Sam Mendes.
Allez, Sam Mendes, c'est parti. Est-ce qu'on enchaîne avec la dernière catégorie qui est l'Oscar?
Ouais.
Le meilleur
film. Ah oui, si, je voulais parler un petit peu du discours de Rebel Wilson au BAFTA Awards pour finir avec cette catégorie du meilleur réalisateur.
Ouais.
Donc au BAFTA, il y a tous ces mêmes réalisateurs qui ont été nommés. Et encore une fois, il n'y avait que des hommes. Elle a regardé sa feuille et elle a dit « Écoutez, tous ces immenses réalisateurs, moi je ne pourrais jamais faire ce qu'ils font parce que I don't have the balls. » Et ça a fait rire tout le monde. Et c'était très sarcastique,
ah, ça a fait
très
rire.
Piquant. Ah bah ça fait rire parce que si tu veux, tout le monde sait que c'est tendu et tout.
Ouais.
Donc oui, ça fait rire parce que Rebel Wilson est aussi une actrice très drôle et elle a fait un discours très drôle. Donc elle a mis dans l'ambiance, mais ça dénonce. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le meilleur réalisateur.
Est-ce que ça a servi à quelque chose? Ou est-ce que tu penses que ça va servir à quelque chose?
Je sais pas. Pour moi, en fait, il faut donner la chance aux femmes et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça vient de plus en plus, en fait. On a eu MeToo, mais c'est pas encore assez, quoi.
Ouais.
C'est pas, y a pas encore assez de diversité dans tout, en fait. Il y a pas assez de diversité. Mais voilà, c'est mon avis, hein, bien sûr.
Ouais, non, mais c'est intéressant de le partager pour que.
Bah oui, puisque je suis la critique la plus reconnue du monde entier.
Oui, c'est vrai.
En matière de cinéma.
En termes d'influence, on est pas mal. Non, et puis, enfin, j'ajoute juste quelque chose. Faut aussi donner, enfin, dire aux femmes, aux jeunes femmes, qu'elles peuvent oser. C'est surtout ça, parce que sur Internet, par exemple, où en soi, tu peux produire ce que tu veux, il y a quand même très peu de femmes qui produisent.
Ah,
alors
oui,
qu'en soi, elles peuvent.
Mais oui.
C'est pas
ça.
Une question de production, donc faut vraiment oser le faire, quoi. Mm-hmm. Se lancer. C'est vrai que c'est plus facile. Moi, je le sais, parce que je suis un homme et je sais que c'est plus facile de se lancer comme ça. Et de ne pas avoir forcément des remarques qui n'ont rien à voir avec ton travail. Mais ça n'empêche que c'est possible de se lancer.
Mais il faut avoir une volonté de faire, en fait. Et surtout, il faut, comme tu dis, il faut oser. Et tu vois, au cinéma, donner un film à une réalisatrice, c'est un pari risqué encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, on regarde des films avec l'œil des hommes depuis... des années et des années. Donc en fait, les femmes, quand elles vont avoir un œil un peu différent, parce que malgré tout, on a une histoire différente, et c'est une histoire qui est valable, mais c'est peut-être une histoire que les hommes n'ont pas forcément envie d'aller voir. Comme je disais dans le podcast de Sur le Popcorn sur Star Wars, en fait, moi, j'ai été habituée à me projeter dans des personnages principaux masculins. Mmh. J'ai été habituée à me dire, ah, moi, je veux trop être Anakin Skywalker, tu vois. Ouais. Mon frère n'a jamais été habitué à se dire, moi, je veux être Jo dans les quatre filles du Dr. March parce qu'elle est trop indépendante et qu'elle a trop envie, elle a pas envie de se marier, tu vois. Ouais. Elle a trop... Et ça, c'est ce qui me manque encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, les hommes qui, clairement, sont à la tête de la plupart du cinéma aujourd'hui, puissent se projeter et donner leur chance aux femmes, en fait. Et en fait, ça pourra couvrir les esprits, tu vois, et ouais. Donner lieu à plein d'histoires différentes. Donc, c'est vrai, il faut se lancer, il faut faire des trucs. Et
ouais, il faut le faire.
Si t'es une meuf, vas-y à fond.
Je pense que il vaut mieux se lancer et après, on viendra te chercher, dans tous les cas, je pense. Enfin,
Inch'Allah.
Inch'Allah, voilà. Ça. Bref, on enchaîne avec la catégorie de l'Oscar du meilleur film.
Oh là là, c'est la
les
dernière.
Les nommés sont... C'est la dernière, en effet. Le Mans 66 de James Mangold, The Irishman de Martin Scorsese, Jojo Rabbit de Taika Waititi, Joker de Todd Phillips, Les filles du Dr. March de Greta Gerwig, Marriage Story de Noah Baumbach, stylé comme nom,
ouais.
1917 de Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Parasite de Bong Joon-ho.
Oh
Alix, c'est la dernière fois que je te pose cette question. Et je suis un peu ému, j'ai la larme à l'œil en te la posant. Quel est ton pronostic ? Faut bien accentuer le pronostic, c'est important.
Alors.
Compliqué ?
C'est compliqué parce qu'en fait, tous ces films font partie des meilleurs films que j'ai vus cette année.
Ouais.
Forcément.
Prix général. Oscar voilà. À tout le monde.
Je sais pas s'il y a des ex-échos parfois.
Je suis pas sûr. Ça marche pas trop comme ça.
Écoute, je vais procéder encore une fois par élimination.
Allons-y.
Bon.
Le Mans 66.
Eh ben, je vais procéder par élimination parce que, tout simplement, je ne l'ai pas vu. C'est le seul que je n'ai pas vu de toute la catégorie. Ça me peine un peu de dire ça et ça me peine de ne pas l'avoir vu. Et si c'est lui qui gagne, j'aurais vraiment l'air d'un con.
Ah.
Mais non, je ne l'ai pas vu. En plus, je voulais vraiment le voir. Ensuite, The Irishman, comme je vous l'ai dit, bon, je l'élimine. Voilà. Joker, je l'élimine aussi. Les filles du Dr. March... J'ai beaucoup aimé, mais en fait, ça m'a rappelé mon enfance, mais ça m'a pas autant amené de la nouveauté, de la fraîcheur que les autres films, tu vois, comme Marriage Story, qui m'a vraiment bouleversée. Et, alors que je suis pas la cible, tu vois, je suis ni en couple, ni en instance de divorce, ni j'ai 35 ans, tu vois, donc vraiment, j'étais pas du tout la cible. Pour le coup, ça m'a bouleversée et ça amène beaucoup plus de fraîcheur. En fait, je vais faire un pronostic. Comme j'arrive pas à décider par mon cœur, je vais faire un pronostic basé sur mon expérience.
Ok, je comprends pas trop la démarche, mais
En fait, l'année passée, c'est Green Book qui a remporté l'Oscar du meilleur film.
Ok, oui, c'est vrai.
Green Book, qui est un film ultra familial, ultra grand public, très feel good, très... voilà, et je pense que Jojo Rabbit ferait bien le taf de lui succéder. Parce que pour moi, Jojo Rabbit, donc c'est le film de Taika Waititi, qui est un film aussi très grand public, qui se veut très grinçant, très drôle au début, et puis finalement qui se transforme en tragicomédie ultra intéressante, où tu peux emmener en fait des enfants le voir. Et en même temps, toi, tu vas kiffer aussi en allant le voir. Je suis tombée amoureuse de ce film, parce que pour moi, c'est une petite pépite, tu vois, c'est ultra... Ouais. C'est Taika Waititi, tu vois, il avait réalisé Vampire en toute intimité, qui était un faux documentaire sur les vampires, qui est ultra drôle, donc il est lui-même très drôle, et il avait réalisé aussi Thor Ragnarok,
ouais.
Voilà, Boy aussi, et je trouve qu'il arrive à faire passer un vrai message dans son film, qui est attention aux erreurs qu'on a faites, attention, pensez par vous-même, essayez de penser par vous-même, et c'est ça vraiment la leçon de son film, donc je pense que c'est, j'ai envie de dire lui, je pense que je prends un sacré risque en disant ça, mais je me base un peu sur Green Book et voilà, je vais dire Jojo Rabbit et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que c'est super dur de faire ce genre de choix.
Oh là là, c'est magnifique. Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi un peu d'actualité quand même, avec toutes les tensions politiques qu'il y a en ce moment. Ça pourrait être intéressant de mettre en avant un film où il y a 1917 qui marche bien aussi dans cet esprit-là. Mais c'est intéressant de mettre un film en avant qui vous dit attention.
Oui, c'est ça.
Ça peut vite
dériver. Attention, voilà, ça peut vite dériver. Et 1917 dit moins ça. 1917, pour moi, c'est plus sur le traumatisme.
Ouais. Alors du coup, montrer le traumatisme, c'est aussi dire regardez où on peut finir.
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça qui est atroce. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y aurait plus de guerre comme la guerre de 14-18, puisque c'était maintenant, c'est plus les mêmes armes qu'on a. Donc
ouais,
c'est
bien sûr.
C'est une histoire, je pense, qui pourrait pas se reproduire, contrairement à Jojo Rabbit, où c'est vraiment l'histoire d'un enfant. Donc c'est difficile à pitcher, c'est l'histoire d'un enfant qui est embrigadé dans les jeunesses hitlériennes. Et son ami imaginaire, c'est Hitler, qui est joué par Taika Waititi, donc les réalisateurs. Et en fait, il découvre que sa mère héberge une jeune juive dans son grenier. Et donc là, tout se remet en question pour lui. Mais attends, ma mère n'est pas une bonne nazie. Et donc voilà. Et donc c'est toute cette réflexion. Et je trouve le film est malin, prend un tournant que beaucoup n'ont pas aimé. Beaucoup s'attendaient à une comédie ultra grinçante sur les nazis de bout en bout. Et finalement, ça se transforme un peu en film familial, en conte initiatique. Donc moi, je suis rentrée dedans. Moi, je suis allée à fond dedans. Voilà, c'est un très très beau film que je vous conseille d'aller voir au cinéma. Il est en ce moment en salle, donc voilà.
Mais c'est magnifique. Donc voilà. On valide ce dernier pronostic.
Oh là 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 là, on valide.
C'est validé. Hein.
C'est mon dernier mot, je vous Mathéo. Ah,
t'allais m'appeler Jean-Pierre, je l'ai entendu. moi, je vais faire mon pronostic aussi.
Mais oui.
Et je vais mettre Le Mans 66.
Parce que c'est le seul que j'ai pas vu.
Parce que c'est le seul que t'as pas vu déjà, qu'on a tous les deux pas vu. Donc ouais. C'est une bonne occasion de voter pour ça. Et puis. Je sais pas, Le Mans, ça a l'air d'être une ville sympa. Donc, puis c'est en France et tout, donc non,
ouais,
mais stylé. Mmh. Moi, je me souviens d'une équipe de foot qui était Le Mans, que j'adorais. L'Olympique Lyonnais avait mis 8-1 à Le Mans en 2005-2006, un truc comme ça.
Alors, bienvenue dans Sort le football.
On change complètement de thématique, mais c'est pas grave.
Sortez les ballons.
Voilà, donc moi, je suis pour Le Mans 66. En plus, bon, voilà...
Eh ben écoute, très
Le Mans,
bien.
Quoi.
Tu sais quoi, ce qu'on va faire dans l'article qui relaiera ce podcast, on mettra tes pronostics ainsi que mes pronostics et celui qui en a le plus devra faire cette lettre de motivation. Est-ce que ça te va?
Ok.
Ça te va?
Si je gagne.
Si tu gagnes, c'est vraiment la honte pour moi, quoi. Mais.
Ouais, parce que je rappelle que j'ai vraiment vu zéro film de cette liste de films et que même si je les avais vus, je n'aurais pas d'avis, je pense. Donc bon.
Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous aussi à faire vos propres pronostics. Je serais ravie de les connaître et qu'on en débatte dans les commentaires.
Bien sûr.
Bien sûr, abonnez-vous à Sort le Popcorn, qui est quand même la meilleure émission ciné-série que vous ayez jamais entendue.
On est, je le rappelle quand même, avec la meilleure intervenante ciné-série.
Exact, exact.
On l'a pas assez dit, je crois, dans ce podcast.
Bah, c'est vrai, on l'a pas trop dit. Ouais. Mais tu sais quoi, Mathéo? C'est toi le meilleur intervieweur.
Oh là là.
C'est toi qui as les meilleures questions sur tous
oh
les Oscars.
Là là. Allons-y, continuons, continuons, toujours plus.
Et si vous êtes d'accord, eh bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à Sort le Popcorn sur Apple Podcast. Nous laisser un petit commentaire, nous dire votre pronostic des Oscars. Enfin voilà, on vous attend nombreux dimanche dans la nuit, de dimanche à lundi, dimanche 9 février. Soyez là, bizarre comme on dit, et à bientôt.
À très vite.
À très vite
pour un nouveau Sort le Popcorn.
C'est ça.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.